Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel. La radio. La radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à l'émission du 30 mars de Cinérama. Bonjour Martin.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et nous allons développer immédiatement le sommaire. Alors, toi, tu vas revenir avec une deuxième partie d'un grand dossier.
Voilà, dossier que j'ai entamé la semaine dernière, consacré aux adaptations de Philip K. Dick, donc grand écrivain de science-fiction américain. Voilà, les adaptations de Philip K. Dick au cinéma, ce sera la deuxième et dernière partie de ce dossier.
Et ce sera évidemment documenté avec des extraits, évidemment, des films. Et puis, eh bien, nous écouterons Anna Mouglalis et José Garcia, qui sont les deux acteurs du film Chez Gino, le dernier film de Samuel Benchetrit. Alors, on entendra une toute petite interview de José Garcia, parce que j'ai pas pu l'avoir à moi tout seul, mais une plus longue interview d'Anna Mouglalis, que j'ai eu le plaisir d'avoir en face de moi, et qui était bien disposée à répondre à mes questions, donc, sur ce film. Ce sera bien au milieu de ton dossier. Mais tout de suite, on va commencer avec la partie actualité du cinéma dans la région. Nous recevons par téléphone le président des semaines du cinéma méditerranéen qui se déroule à Lunel du 30 mars au 12 avril. C'est monsieur Michel Perrier. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de passer un court moment avec nous pour parler de ces semaines, parce que ça dure longtemps finalement, c'est sur trois semaines.
Une semaine pour le public, oui, et une semaine pour le scolaire.
Alors c'est la 27e édition, donc oui. Autant dire que vous avez eu le temps au fil des éditions de présenter encore plus de films.
Oui, cette année, c'est 34 longs-métrages, une douzaine de documentaires, une dizaine de courts-métrages en compétition. Oui, ça fait, on n'est pas loin de 60 films, quoi.
Et évidemment, comme pour... alors, bon, vous les appelez les semaines, mais c'est comme un festival. Et vous avez des invités, on peut en parler, avec Yves Boisset, notamment.
Oui, on a un invité d'honneur, qui est un monsieur qui... que j'appelle affectueusement le metteur en scène de nos indignations. C'est un monsieur qui, pendant 30 ans, a à peu près couvert avec son cinéma tout ce qui faisait mal de la société française, quoi, entre la guerre d'Algérie, le service d'action civique, les scandales immobiliers, les jeux télévisés truqués, mortifères, enfin bref... Mmh. Il a couvert à peu près tout ce que la Ve République a produit de mots, quoi.
Et donc Yves Boisset, eh bien, sera l'invité d'honneur de ces semaines. Alors avec un film RAS, mais aussi un autre, Dupont-la-Joie, qui me semble-t-il fait écho, eh bien, aux dernières échéances électorales.
Oui, et d'ailleurs, les semaines du cinéma méditerranéen ont été créées il y a 27 ans dans exactement les mêmes situations, la même situation qu'aujourd'hui, peut-être un peu plus grave à l'époque puisque le Front National était à la mairie et avait le poste d'adjoint à la culture, donc ça avait été une première résistance à cette montée de la xénophobie. 27 ans après, j'ai envie de dire malheureusement... On est sur une situation semblable, ce qui redonne bien entendu de la légitimité à notre combat, à savoir montrer la diversité culturelle, établir le dialogue culturel à travers le cinéma, quoi, à toutes les populations qui forment le terreau des habitants de Lunel.
Alors Dupont-la-Joie, ce film, c'est un film de 1974, donc de Yves Boisset avec Jean Carmet, qui dénonce le racisme. Ce sera une projection à 21h le 3 avril, et j'imagine que Yves Boisset aura quelques anecdotes à livrer.
Oui, d'autant que ça aura été précédé la veille d'une table ronde sur le cinéma empêché, puisque c'est notre... Au-delà de la... de l'actualité méditerranéenne cinématographique, notre thème c'est le cinéma empêché, et Yves Boisset a passé sa carrière à être empêché de faire ses films. Il y a toujours eu des bâtons dans les roues, que ce soit sur le plan financier, des disparitions de bobines, des interdictions de tourner, des menaces. Il faut savoir que par exemple pour le film Le Juge Fayard, Yves Boisset a été intimidé à coups de mitraillette dans les rues de Paris. Il n'était pas question de le tuer, mais de lui faire une petite peur, quoi, hein, pour s'arrêter de tourner sur ce qu'on appelait à l'époque le service d'action civique, un groupuscule qui a été dissous et qui était au service du pouvoir, quoi.
Alors le cinéma méditerranéen, évidemment, c'est l'Algérie. Vous laissez une grande place quand même à l'Algérie, notamment avec un excellent documentaire « La Chine est encore loin » de Malek Bensmaïl, qui a été primé à Nantes, notamment au Festival des Trois Continents. Et puis le film « La Place » d'Arman Ouzid, qui sera aussi présent avec vous.
La place qui n'est pas encore certaine d'être distribuée, mais je pense qu'il va l'être par les films des deux rives. C'est une soirée qu'on fait en collaboration avec Regard sur le cinéma algérien, dirigé par Jacques Choukroun, mais aussi par le MRAP, le comité local du MRAP de Lunel, qui a choisi la place, non pas en faisant référence à la deuxième partie de son titre, Mouvement pour contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, parce que la place est une comédie musicale et que ça faisait sortir le cinéma algérien ou le cinéma maghrébin d'une manière générale des clichés habituels dans lesquels on l'enferme. Donc c'est une comédie musicale qui nous donne l'image d'une jeunesse algérienne en pleine évolution, en pleine révolte, en pleine prise de conscience, et bien entendu ça fait écho à tous les mouvements qui se passent à l'heure actuelle en Afrique du Nord, depuis l'Égypte jusqu'à la Libye, en Tunisie, et c'est vrai que l'Algérie est très très sensible et très à l'écoute de ce qui se passe en ce moment dans le monde arabo-musulman, quoi.
Alors bien, peut-être pour terminer, vous pouvez peut-être insister sur des événements particuliers lors de ces semaines.
Ou alors il y a effectivement Boisset qui est à lui tout seul un monument du cinéma et du cinéma populaire en particulier. Jean-Pierre Liédo qui illustre notre cinéma empêché puisqu'il est interdit en Algérie à cause de sa posture vis-à-vis de l'interculturalité qui pouvait exister à l'époque et qu'on a peut-être raté au moment de l'indépendance, hein, qui sera là pour aussi pendant 3 ou 4 jours. Il y aura le réalisateur de La Place. On a un ciné-concert le samedi soir avec Martial Romanco sur le film Le Cuirassé de Potemkin. Alors, Le Cuirassé de Potemkin n'est pas un film militaire,
non,
évidemment.
Je vous confirme.
C'est le film le plus admiré peut-être au monde et le plus censuré de l'histoire du cinéma. Donc il avait complètement sa place là-dedans. Je voudrais dire aussi quand même, il y a un moment très fort, ça sera l'avant-première, une des avant-premières, parce qu'il y en a eu une à Montpellier et une au Festival d'Alès, le film de José Alcala avec Catherine Fraud, Coup d'éclat, qui clôturera les semaines du cinéma méditerranéen. Le 12 avril à 21h. Mais 3 heures auparavant, on aura montré du même réalisateur, Molex, le documentaire consacré à cette usine qui a été démantelée dans la région de Toulouse. Cette soirée-là sera faite d'ailleurs en collaboration avec la CGT et 4 des travailleurs de chez Molex seront là pour expliquer leur combat. Voilà, ce sont entre autres, hein, parce que on a aussi les ciné-vocations avec 3 jeunes réalisateurs algériens, tunisiens, marocains qui vont venir présenter leur cinéma, c'est-à-dire le jeune cinéma maghrébin face aux mutations de la société. Ça sera le 9 avril. Donc le 7 avril et le 9 avril la table ronde. Donc beaucoup de choses. Hein, et je pense cette année une grande édition.
Eh bien, merci beaucoup, hein, Michel Perrier. Donc, on le reprécise, les semaines du cinéma méditerranéen, c'est du 30 mars. Ça commence ce soir avec la projection des femmes du 6e étage, film de Philippe Leguet. Et ça se déroule à Lunel, au cinéma Athénée. Merci beaucoup. Et donc, pour se quitter, eh bien, on va écouter un petit extrait du film Dupont-la-Joie d'Yves Boisset, film de 1974, avec Jean Carmet.
Dites-moi, vous n'avez rien remarqué de particulier dans les heures qui ont précédé le...
Non, non, je vois pas.
Si, tout de même. Enfin, dans ces cas-là, n'est-ce pas, il vaut mieux tout dire.
Bien sûr.
Eh bien voilà, hier, nous étions au bal, tranquillement, en famille, quand... Mais comment vous dire, des Arabes sont arrivés.
Ils ont commencé à embêter Brigitte et on a été obligés de... Enfin, d'intervenir, quoi.
Et... Il y a eu de la bagarre?
Non, à peine, monsieur. Et je crois même qu'on s'est énervé un peu vite. Ils n'avaient rien fait de mal, les Arabes.
Oui, n'empêche que les gendarmes les ont quand même emmenés. Et puis, ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais la petite, c'est tout de même du côté du baraquement des Arabes qu'on l'a retrouvée.
Eh bien, mais c'est très intéressant, tout cela.
Les Arabes ont-ils assassiné la jeune fille? Vous le saurez en allant voir donc Dupont-la-Joie. Et pour avoir bien tout le programme de ces semaines du cinéma méditerranéen du pays de Lunel, c'est www.pêcheurs-d'images.fr.
Alors la semaine dernière, à l'occasion de la sortie en salle de L'Agence, long métrage de Georges Nolfi, j'avais entamé une petite exploration des différentes adaptations de Philippe K. Dick au cinéma. L'Agence, c'est la 11e transposition sur grand écran de l'œuvre visionnaire de cet écrivain de science-fiction qui nous a quittés pour un monde moins artificiel il y a maintenant une trentaine d'années. Alors comme je suis né quelques mois seulement après sa mort, j'aime à penser qu'une petite partie de sa personnalité complexe et paranoïaque s'est réincarnée en moi. Un sentiment qui est d'ailleurs conforté par toute une série de coïncidences étranges. Par exemple, chaque semaine, je me bourre d'amphétamines pour arriver à écrire mes textes à temps pour Cinérama. Il m'arrive aussi souvent de trouver que le monde dans lequel je vis cloche d'une façon que je ne peux pas expliquer. Alors est-ce que je suis vraiment dans la réalité ou est-ce que je suis en train de faire un cauchemar horrible imposé grâce à la télévision par le gouvernement fasciste qui domine le monde depuis 2000 ans ? Enfin, il m'arrive d'avoir des doutes sur la nature de mon collègue Vincent ici présent. J'ai souvent du mal à ne pas voir en lui un androïde froid et inhumain, incapable d'éprouver la moindre empathie pour les gens à qui il recommande chaque semaine d'aller voir des films français avec José Garcia. Mais bon, ce n'est qu'une impression. Bon, laissons là ces questions angoissantes et continuons notre petit panorama des adaptations de Philippe K. Dick au cinéma. Mais d'abord, pour vous mettre dans l'ambiance, une petite page de pub.
Ubik Instantané possède tout l'arôme du café filtre fraîchement moulu. Votre mari vous dira, chérie, je trouvais ton café comme ci, comme ça. Et maintenant, miam, quel régal! Sans danger si on se conforme au mode d'emploi.
Élixir d'Ubik restaure la virilité perdue, bannit les vapeurs de tout ordre et guérit les maladies secrètes chez l'homme et chez la femme. Action bienfaisante, garantie si l'on se conforme assidûment aux indications.
Alors que Blade Runner acquiert son statut de chef-d'œuvre et de film culte grâce à la vidéo, et alors que Total Recall totalise environ 120 millions de dollars de recettes sur le sol américain, les banquiers d'Hollywood commencent à comprendre que Philippe K. Dick pourrait bien être une poule aux œufs d'or pour qui saura adapter ses romans et ses nouvelles. Alors comme l'écriture était la seule source de revenus de Dick, il était devenu un maître dans l'art de tourner une histoire pour qu'elle accroche le lecteur en quelques paragraphes avec un concept fort. Emboîtant le pas à Blade Runner, deux films américains vont donc jouer avec la thématique de l'androïde simulacre, impossible à différencier de l'homme véritable. Dans les deux cas, il s'agit de films à budget moyen qui adaptent une de ces nouvelles que Dick écrivait à un rythme industriel et de façon alimentaire au début des années 50, et dont il disait lui-même qu'elles étaient, je cite, de seconde zone. Alors le premier film, Planète Hurlante de Christian Duguay, sorti en 95, nous propulse sur Sirius 6b, une planète lointaine où sévit une guerre meurtrière depuis de nombreuses années. Pour remporter la victoire, un des deux camps a créé des armes automatiques, des machines, capables de s'auto-reproduire et de s'améliorer toutes seules. Et après quelques générations à étudier le comportement des hommes, elles se mettent à fabriquer des androïdes qui imitent à la perfection les humains pour mieux les piéger. Alors Planète Hurlante utilise les principaux éléments de la nouvelle second modèle de Dick, mais il s'éloigne radicalement du discours de l'auteur pour se concentrer sur un film d'action post-Terminator 2, le talent et le budget en moins. Le scénariste Dan O'Bannon, qui était déjà à l'œuvre sur Total Recall, délocalise le conflit qui se déroulait originellement sur Terre et motive cette guerre à laquelle Dick n'avait pas voulu donner de raison. Dans la nouvelle, écrite en pleine guerre froide, les Américains et les Russes s'étaient renvoyés dos à dos face à cette nouvelle menace dont ils étaient à l'origine. Et l'histoire se terminait plutôt mal pour l'humanité. Le seul réconfort du héros, au final, était de voir que les machines commençaient à se détruire entre elles. Une conclusion cynique et désespérée comme les aimait l'auteur. Alors Planète Hurlante est un film moins satirique que le texte dont il s'inspire. Alors que l'écrivain dressait un portrait sans concession de la bêtise humaine et adressait un message de paix à ses contemporains, le film subvertit le propos dickien par la violence des images et assume son inconséquence de film d'action.
Excusez-moi, chef. Qu'est-ce que c'est ?
Une épée, Jefferson. Viens voir. On leur a donné le nom de Hurleurs. Elles ont été conçues par l'Alliance pour la guerre souterraine.
Vous êtes sûr qu'elle est morte ?
Oui, je lui ai viré la cervelle.
Oh, ne touche pas si tu ne veux pas te faire bouffer le doigt. Je croyais qu'elle était morte.
J'ai enlevé le processeur, mais il lui reste encore des réflexes mécaniques superficiels.
Super. Même la tête tranchée, elles sont capables d'actionner leurs mâchoires. Elles sont malines.
Oui, peut-être trop malines. Celle-ci a apparemment réussi à s'auto-modifier.
Chef, où sont tous les autres ? Les types qui étaient avec moi.
Combien étiez-vous à bord de cet appareil ?
38, moi compris.
Mais il n'en reste plus qu'un, toi compris.
Le second film a abordé la question de l'androïde en prenant pour base une nouvelle de Philip K. Dick, c'est Impostor de Gary Fleder, sorti en 2002. Comme dans Planète Hurlante, un énième conflit entre terriens et extraterrestres a débouché sur la création d'armes à forme humaine. Mais cette fois-ci, les androïdes ont une particularité, ils ne savent pas ce qu'ils sont et pensent être de véritables humains. Ils vivent donc la vie de ceux dont ils ont pris la place jusqu'au jour où leurs supérieurs les font exploser à proximité de leur cible. Dans Impostor, un homme normal, Spence Olam, devient du jour au lendemain un fugitif quand il est soupçonné d'être l'une de ces bombes sur pattes.
Spencer Olam était un génie. Il maîtrisait le calcul différentiel et intégral à l'âge de 15 ans. Physicien diplômé de Harvard, du MIT, ingénieur en biochimie, physicien subatomique au laboratoire Cavendish. Tout ça avant l'âge de 23 ans. Incroyable. Aucun dossier militaire, son père, John Olam, était pilote de chasse. Il a abattu de nombreux ennemis. C'était un pilote chevronné. Il était porté disparu jusqu'à ce qu'on retrouve son corps dans un camp Centauri. Le pire, c'est qu'il l'avait écorché vif. À la mort de son père, le jeune Spencer n'avait que 8 ans. Spencer Hall avait une valeur inestimable. Je n'éprouve aucun plaisir à la perte de cet homme. Et quand je n'éprouve aucun plaisir, il n'y a personne qui a du plaisir.
Quoi ?
Tu aimes les blagues ? J'en ai une bonne pour toi. Toc, toc.
Pourquoi faites-vous ça ?
D'accord, je vais répéter. Toc, toc.
Qui est là ?
Pas Spencer Owens.
Persuadé de son humanité, Olam va réussir à s'enfuir et va tout faire pour prouver son identité. Le film de Gary Fleder adapte de façon très fidèle la nouvelle de Dick, mais malheureusement, la nouvelle en question ne brille pas par son originalité ou sa profondeur. Et après Blade Runner, Planète Hurlante et Deux Terminator, le sujet commence à sentir un peu le réchauffer. De plus, le film Impostor devait à l'origine faire partie d'un triptyque et ne durer qu'une quarantaine de minutes. Mais les producteurs enthousiasmés par le segment poussèrent le réalisateur à en faire un long métrage autonome. L'histoire a donc été étirée et cela s'en ressent à la vision, avec de longues péripéties répétitives et sans grand intérêt. Donc le film n'est jamais sorti sur les écrans français et il a fallu attendre son édition en DVD pour le découvrir.
C'est une grossière erreur. Je sais ce que vous croyez et c'est idiot. Vous faites une bêtise, et j'en ai la preuve, nous avons des tests pour ça.
Nous ?
Il y a un tas de méthodes pour ça, faites-moi passer un scanner de la moelle épinière.
Mais qui ça ?
Encore une amplification d'ADN.
Tu as appris à jouer au patron, à ce que...
Je vous en prie, écoutez-moi...
Ton petit astronef a pénétré notre dôme extérieur. Tu as attiré Spencer Olam lorsqu'il était le plus vulnérable à l'extérieur de la cité, là où il n'y a aucun contrôle. Où est ton astronef ?
Par pitié, écoutez-moi juste...
Tu es l'outil d'un assassinat.
Vous n'avez aucune preuve !
Soir, tu dois voir le chancelier, c'est là que tu vas exploser.
Je suis bien Spencer Olam, sale enfoiré !
Quelques mois seulement après la sortie dans les salles américaines d'Impostor, une autre adaptation de Dick déboule sur les écrans, et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du Minority Report de Steven Spielberg avec la toute petite star internationale Tom Cruise dans le rôle principal.
Imaginez un monde sans meurtre.
J'ai perdu mon meilleur ami.
J'ai perdu ma tante.
J'ai perdu mon papa.
J'ai perdu mon père.
J'ai perdu ma femme.
Il y a 6 ans, le taux d'homicide dans ce pays avait atteint des proportions épidémiques. Il semblait que seul un miracle pouvait stopper l'hémorragie. Mais au lieu d'un miracle, nous en avons eu 3. Les précognitifs. En seulement 1 mois, dans le cadre du programme Précrime, le taux de meurtre dans le district fédéral de Columbia fut réduit de 90%.
Ils étaient une bande qui m'attendait dans la voiture.
Ils voulaient me violer.
J'allais me faire poignarder.
Ici. En 1 an, Précrime a effectivement arrêté le meurtre dans la capitale de notre nation.
Minority Report dépeint un monde futuriste dans lequel la criminalité a été presque totalement endiguée. Un dispositif policier Précrime anticipe les meurtres avant qu'ils ne se passent et arrête les meurtriers avant qu'ils ne commettent leurs méfaits. Donc cette organisation fonctionne grâce à des mutants qui sont de l'avenir et qui perçoivent les crimes avant qu'ils ne soient perpétrés. Donc tout va pour le mieux dans ce meilleur des mondes jusqu'au jour où un policier est lui-même désigné par les précogs comme un futur meurtrier. Commence alors pour notre pauvre poulet une course contre la montre et contre son propre futur. Donc un sujet en or pour Steven Spielberg et ses scénaristes qui tirent de cette nouvelle un long métrage de science-fiction léché et pétaradant à l'image glaciale et au suspense implacable. Voilà un extrait de la bande originale de Minority Report, une partition signée par John Williams, une très belle BO. Alors si le film de Spielberg remplit parfaitement son rôle de thriller de science-fiction, on ne peut pas en dire autant pour ce qui est de la fidélité d'adaptation. Alors que la nouvelle commence par un constat amer du héros sur son grand âge, son embonpoint et sa calvitie, le rôle a été donné à Tom Cruise qui, comme chacun le sait, est vieux, gros et chauve. Alors c'est un détail, mais il est symptomatique du travail de transformation que l'équipe du film a fait subir à la nouvelle originale. Les précogs hideux que Dick avait imaginé et que Rob Bottin avait concrétisé à grands coups de prothèses en silicone sur Total Recall font place ici à des acteurs à peine maquillés. Mais la plus grande trahison, à mon avis, réside dans le dénouement de l'histoire. Alors attention, spoiler. Chez Dick, le policier John Anderton finit par commettre volontairement le crime dont il est accusé pour que le système conserve sa légitimité et qu'il perdure. En faisant ça, il se condamne à l'exil, mais sait que Précrime restera opérationnel. L'auteur laisse le soin au lecteur de définir si les actes de John Anderton sont justes ou non, bons ou mauvais, et si le système a priori séduisant d'une société sans crime parce que surveillé constamment n'est pas finalement un authentique cauchemar. Spielberg, lui, choisit de mâcher le travail au spectateur. D'abord, ce n'est plus le héros qui connaît un meurtre pour sauver le système, mais un autre protagoniste, qui est d'ailleurs plus proche du John Anderton de la nouvelle que ne l'est le personnage campé par Tom Cruise. Enfin, le film se conclut par la fermeture définitive de Précrime. Les questions morales et éthiques liées à la présomption de culpabilité et aux dérives sécuritaires du système policier sont balayées par la dissolution pure et simple du problème. Alors que l'actualité américaine et l'adoption du Patriot Act l'année précédente donnaient au sujet du film une résonance particulière, Steven Spielberg choisit de faire de Minority Report une simple évasion dans le futur qui ne porte pas à conséquence. En faisant ça, il s'éloigne radicalement de la nouvelle dans laquelle Précrime était défendu sans réticence par Anderton, ce qui permettait au lecteur de percevoir plus facilement son ambiguïté.
Qu'est-ce qui se passe ?
Je sais pas.
Qu'est-ce qui se passe ?
Je sais pas.
Où est le reste ?
Je crois que c'est tout ce qu'il y a.
Où est mon rapport minoritaire? Est-ce que j'en ai un? Est-ce que j'en ai un?
Non.
Quoi?
Non.
On va faire une petite pause après Minority Report de Steven Spielberg et on reviendra un peu plus tard dans l'émission pour terminer ce panorama des adaptations de Dick au cinéma.
Eh bien, merci Martin. Et on change carrément d'univers hein, entre Spielberg et Samuel Benchetrit. Il y a un gouffre bien plus gros que l'océan Atlantique qui sépare eh bien, la France des États-Unis. En tout cas, chez Gino, eh bien, c'est le nouveau film de Samuel Benchetrit. Après, J'ai toujours rêvé d'être un gangster, qui était une comédie noire plutôt bien réussie. Et donc, chez Gino est avec José Garcia, Namouglalis et Samuel Benchetrit, qui joue dans son propre film. Et il joue, en plus, un réalisateur. Alors, les films de Benchetrit ont toujours un côté expérimental. Ici, il oscille entre la couleur et le noir et blanc, la comédie et le film dramatique, la fiction classique et la dérision. C'est un dosage délicat. Et pour en parler, eh bien, on va écouter tout d'abord José Garcia.
Monsieur Roma, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que la mafia?
La mafia. Ah, la mafia. La mafia, c'est un mot qui ne se dit pas, la mafia. La mafia, c'est dire bonjour quand on peut dire au revoir, la mafia. C'est une voiture lancée à pleine vitesse dans un sens interdit. Mais la voiture, elle sait parfaitement où elle va. C'est ça, la mafia. Et la mafia... La mafia, c'est la famille. D'ailleurs, dans le mot mafia, il y a le F de famille. Il y a le A aussi, et le M, et le I. C'est marrant, vous avez vu, il y a toutes les lettres.
C'est un rôle que j'adore, c'est un rôle qui... Moi, j'ai toujours été baigné de cinéma italien, et c'est vrai que le tragicomique d'un personnage comme ça, qui est au bord de la casse... C'est un film qui parle de la famille, donc moi ça me plaît. Quoi. C'est vrai qu'on n'a pas l'opportunité de nos jours, on a toujours des comédies qui sont assez formatées, qui sont assez dans le conventionnel, ou voilà, qui parlent de... Voilà, avec ce film, on sortait un peu, on revenait un peu vers la tradition italienne, vers ce côté comme ça, démesuré de la famille, de gens qui essayent de s'en sortir et qui prennent n'importe quelle décision pour s'en sortir. Voilà, c'est un personnage plein d'humanité et il y avait tous les travers de la comédie que j'aime, quoi, espèce de... C'est une famille, c'est un peu les Simpsons, ces gens-là, quoi. C'est une espèce de gens qui sont capables de faire tout et n'importe quoi, et qui prennent toujours les mauvaises décisions, et qui s'enfoncent de plus en plus, mais toujours dans la joie. Donc voilà, il peut rien leur arriver à cette famille-là. Ah, c'est pas facile, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais c'est ce qui me plaît, moi. De toute façon, quand on me propose des choses que je sais faire, je les prends pas, généralement, parce que sinon on s'enferme dans quelque chose qu'on... dans des habitudes ou dans quelque chose qu'on sait faire et au bout d'un moment, on finit par devenir une propre pastiche de soi-même. Quoi. C'est la tradition du cinéma méditerranéen. C'est-à-dire que, vous savez, moi ce que j'aime des films comme Zorba le Grec, j'aime des films comme ça ou des films avec Alberto Sordi et tout ça. Il y a toujours le côté drame et mélodrame, quoi. Pathétique, sympathique, drôle, voilà, c'est des films qui parlent de la vie, quoi. Ce qui est super étrange, c'est quand on fait des films où les personnages sont tout le temps d'un seul tenant, comme ça, que dans la comédie, ils sont comme nous, quoi, ces personnages, ils sont comme, voilà, où on travaille le matin et on se dit comment je vais m'en sortir aujourd'hui, comment je vais payer mes factures, et puis le soir, on se dit après tout, je vais aller boire un coup, ça me fait plaisir. Voilà, on passe de plein d'émotions différentes, et voilà, et puis c'est un film qui associe plein de choses, parce qu'en fait, c'est un peu comme, même comme dans les films de Tarantino, quoi. C'est-à-dire qu'on passe un peu de choses fortes à des choses plus drôles, à de la comédie carrément poussée à l'extrême, et puis voilà, et puis je suis bien entouré, quoi. Je suis entouré avec une bande de malades complets, et ça fait toujours plaisir d'agrandir la famille.
Il y a un type qui essaie de vous faire du tort en ce moment, il s'appelle...
Gino Roma.
Vous le connaissez?
Je suis un homme doux, vous savez. Mais celui qui s'intéresse de trop près à mes affaires doit se préparer à souffrir.
Très heureux de faire votre connaissance.
Ça tend déjà, c'est ça? Oh, j'ai compris.
J'ai entendu dire que vous vous intéressez...
Articulé, on n'entend rien, on comprend rien.
Vous n'avez pas peur de faire de la concurrence à quelqu'un?
Si quelqu'un s'intéresse d'un petit peu trop près à mes affaires, je prends un petit ciseau et je lui coupe les couilles et je les donne à manger à sa femme.
Casse-moi le torchon.
C'est bon?
Non, je suis celui qui va te couper les couilles pour les donner à bouffer à ta femme.
Alors là, vous êtes mort.
C'est bon. Gonzalez n'est pas un acteur.
émotion partagée hein, dans le studio avec Martin qui remue la tête et Bruno qui a la réalisation technique de cette émission qui est plutôt enjoué. Chez Gino, c'est pour résumer l'histoire, parce qu'il faut quand même en parler un tout petit peu, il y a José Garcia qui est le patron d'une pizzeria en Belgique et qui, au bout d'un moment, pour toucher le gros pactole à la suite de la mort de son oncle qui était un parrain de la mafia en Italie, doit se faire passer pour un mafieux. Et donc, l'excuse qui est trouvée, le principe qui est trouvé, c'est de dire qu'il dirige toutes les pizzerias de Bruxelles. Voilà, donc on va passer cette fois-ci au personnage féminin, c'est Anna Mouglalis qui interprète la femme de José Garcia. Elle est dans un registre tout à fait comique, alors qu'on n'était pas forcément habitué à voir Anna Mouglalis dans ce registre-là. Elle avait notamment joué un film très très compliqué, le film de Philippe Grandrieux. La vie nouvelle avec un tournage en Bulgarie, très très compliqué. Et elle nous a parlé un petit moment, c'était bien agréable de la voir en face. Et a précisé aussi que Anna Mouglalis, je ne sais pas s'ils sont mariés, en tout cas ils ont un enfant ensemble. Et le père c'est Samuel Benchetrit, le réalisateur.
Je m'appelle Anna Mouglalis, je suis actrice.
C'est bon ?
Non, je suis celui qui va te couper les couilles pour les donner à bouffer à ta femme.
Alors là, vous êtes mort !
Ah, c'est bon, là ! Gonzalez n'est pas un acteur.
Comment vous avez appréhendé ce rôle ? Parce que c'est peut-être la première... Enfin, moi, c'est la première fois que je vois dans une comédie.
Dans Gino, je me régale. Je me régale. Et puis, c'est une révolution pour moi aussi, parce que... Je trouve que le rapport au rire, c'est vraiment un rapport à l'abandon, mais comme la transe, à un niveau. Sauf que la transe, elle est volontaire sur le départ. Le rapport au rire, à l'humour, demande beaucoup, beaucoup de confiance, quoi. Et puis, il y avait que mon amoureux pour me proposer un rôle pareil. On est très vite... associé, il y a des projections qui sont faites sur les acteurs, donc l'imagination peut manquer. On m'avait proposé des rôles de comédie, mais je trouve que la plupart du temps, les rôles de filles, pour peu qu'elles soient un peu grandes, un peu maigres, c'est jamais des rôles drôles. C'est extrêmement misogyne et vulgaire, donc j'ai pas eu envie, alors que j'adore les belles comédies, ça me réjouit, j'aime beaucoup rire, le rôle qui m'a offert, c'était magnifique, ça permettait une liberté incroyable, ce jeu, le jeu expressionniste dans lequel il m'a permis d'aller, il n'y a pas un metteur en scène qui accepte, moi dans les films dans lesquels je tourne, certaines fois, quand je dis non et que je remue la tête, le metteur en scène dit non, ne bouge pas la tête. Alors je finis par la bouger un petit peu moins, puis il va finir par me demander de plus la bouger du tout, puis je vais dire non de façon très désagréable, et c'est ce qui sera monté dans le film. Voilà.
Moi, je viens d'Italie, du sud de l'Italie. Et ma famille, les Roms, c'est déjà important, très important.
Enfin, important comment ?
Important comme ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, si vous voyez ce que je veux dire.
Ah, Gino, dis-lui vraiment les choses. Ils rackettent, ils volent, ils tuent, trafic de pute, drogue, jeu tout. C'est la grosse mafia.
Et mon oncle Giovanni, c'est le chef de tout ça. On était hier soir à la maison avec Simone, il était quoi, à 22h ?
22h40.
Bon, 22h40, et le téléphone a sonné.
Allô ?
Mon oncle Giovanni va mourir.
Un quarto di ciò che gli appartiene, spettati. Ma prima di dartelo, vuole essere sicuro che tu sia diventato un vero boss.
Ma certo che sono un boss.
En fait, vous voulez faire un film sur une autre vie où vous seriez des mafieux.
Vous êtes dans un tournage un peu étrange avec des bras cassés. Enfin voilà. Donc il y a une espèce de mystification comme ça. Et vous, c'est autour de votre mari, donc Gino, qui doit jouer un mafieux. Vous êtes la femme du mafieux. Vous expliquez
faux mafieux.
Un faux mafieux. Hein. Donc il joue le mafieux. Alors vous jouez la femme du mafieux, mais vous estimez que votre rôle n'est pas assez grand. Et il y a un moment où vous faites justement, comme si c'était un casting, c'est-à-dire que vous dites, moi je peux jouer la peur, je peux jouer. Ça c'était un vrai plaisir de faire ça finalement, parce que là vous étiez en train de,
de faire une espèce de caricature. Enfin, comment vous l'avez pris cette scène ?
Bah, c'était délicieux. C'était délicieux à jouer. En plus, sur voilà le décalage justement qu'une femme qui ne joue pas, qui n'a jamais joué, se fait de ce que pourrait être la comédie. J'aimais voilà cette chose quand elle dit qu'elle peut jouer la peur. Elle fait peur au metteur en scène. Elle joue pas qu'elle a peur, elle. Enfin, voilà, sur l'extériorisation, quoi. C'est-à-dire qu'elle est elle-même publique sa propre interprétation, quoi.
Voilà, il faut une grande maison avec des grandes colonnes, joie du marbre, des statues.
Un peu comme celle de ta mère, Jacques.
Ah, mais non, mais laisse tomber. Elle ne la prêtera jamais.
Action.
Monsieur Romard.
Simone, c'est l'équipe pour le documentaire sur ma vie de grand mafieux.
Ah oui, bonjour.
Ça va être un très gros film. Faut qu'on trouve une voiture aussi.
Voilà, j'ai un copain qui a une Rolls.
Ah bah c'est bien ça.
Mais elle marche pas.
Coupé. On va dans la voiture qui marche maintenant.
Après, est-ce que c'était difficile justement de jouer le film dans le film, c'est-à-dire de faire très attention à la caméra, alors que bon, forcément, il y avait une caméra, puis une autre, il y avait plusieurs caméras en fait sur le plateau. Comment ça s'est joué, cette histoire-là ?
C'était jubilatoire, parce que justement, il fallait désapprendre toutes les choses qu'on apprend au cinéma, voilà, faire comme si la caméra n'était pas là, ne surtout pas regarder à l'intérieur. Là, on a fait voilà, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire sur un plateau. Donc, quand on transgresse, on s'amuse toujours beaucoup. Et puis, c'était très, très, très joyeux. Beaucoup, beaucoup de rire. Enfin, on se retrouve dans un état dans lequel, finalement, l'imagination est prolifique, quoi.
Alors, Samuel Manchetrit n'est pas ici, hein, mais bon, vous avez joué dans... Vous avez joué quand même dans son film. J'ai lu dans le dossier de presse qu'on lui reprochait le rythme, hein, une mauvaise gestion du rythme dans ses films. Il l'avouait, enfin, c'est les retours qu'on lui faisait. Et il se trouve que dans ce film, on passe de la comédie au film dramatique, à la couleur, au noir et blanc. Enfin voilà. Quand vous avez vu le film, parce que bon, c'est pas tout d'être dedans, mais aussi de, peut-être de le voir en tant qu'œuvre, comment vous avez appréhendé ça ? La comédie, puis l'aspect dramatique.
Bah moi, je trouve que c'est une liberté folle qui se permet, parce que la comédie est quand même au cœur du film, ça n'arrête pas, mais Samuel, c'est quelqu'un qui a une attention permanente à l'humain. C'est vraiment un humaniste, quoi, dans ce qu'on peut lire dans ses livres, et la façon dont avec laquelle il regarde les gens. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux gens. Vraiment, et dans le film, mais bon, comme dans les comédies italiennes auxquelles il fait référence, on passe de la comédie au drame, mais le drame vient asseoir la comédie. Plus on est ému par un personnage, voilà, par les difficultés à travers lesquelles il a pu passer, son contexte familial, bon là c'est extrême, en plus c'est une histoire terrible d'où vient ce personnage, plus on éclate de rire quand on le voit dans des situations, c'est des grands écarts, enfin, c'est superbe je trouve, moi j'adore ça et puis de passer comme ça d'un style à un autre, je trouve que c'est d'une audace folle et moi c'est tout ce que j'aime, franchement, c'est tout ce que j'aime. Quand on lui a reproché ces histoires de rythme, je ne sais pas si on lui a reproché. Enfin, les critiques sont souvent, voilà, mais je ne sais pas la pertinence qu'il peut y avoir là-dedans. En revanche, c'est vrai que c'est un rythme, quoi qu'on en dise, qui peut être très particulier sur le précédent. J'ai toujours rêvé d'être un gangster.
Oui, monsieur
Stone. Putain.
Monsieur Stone, c'est à nouveau les kidnappeurs. Excusez-moi. Je me permets de vous relaisser un message afin de compléter le message précédent. Donc, nous détenons votre fille, et qui est très mignonne, hein, et nous vous la rendrons contre la somme de 5 000 euros pour être précis. Ah non, 50 000 euros.
500 000.
De 500 000 euros.
500 000 euros ? Putain.
Oui, donc nous vous la rendrons contre la somme de 500 000 euros que vous avez. Voilà, voilà.
Le rendez-vous pour échanger l'argent à la fille.
Ah oui, monsieur Stone, nous vous donnons rendez-vous.
Ce soir,
vers 23h, 23h30, sur le parking de la cafétéria de la Nationale 17.
Pas de flic.
Oui, et venez sans flic. Voilà, eh bien, à tout à l'heure, et bonne journée. T'as vu ?
Quoi ?
Ah, ben, je me suis rappelé le lieu de rendez-vous. T'as vu comment je venais ? J'ai dépassé les 55 secondes ?
Oui.
On a dit que c'était un film noir. Non, mais c'est pour montrer aussi. Enfin, le travail des journalistes, c'est un peu particulier, parce que ça n'a rien d'un film noir. C'est un film en noir et blanc. Rien à voir. Mais voilà, c'est, il a son écriture. Donc, un rythme qui lui est propre. Et je pense que c'est vraiment un artiste qui arrive aussi à rencontrer son propre style. Parce qu'il est très jeune, Samuel, en fait. Et là, ça n'est que son troisième film. Mais voilà, dans les trois, je trouve qu'il y a vraiment une continuité. Justement, voilà, il a trouvé un ton qui lui est propre et qu'on retrouve nulle part ailleurs.
Puisque vous le connaissez bien,
bah, oui.
Est-ce que vous avez une cinématographie ou une cinéphilie commune?
Oui. Mais c'était effectivement, quand on s'est rencontrés, on s'est montré des choses très différentes. Mais Samuel a une culture cinématographique ahurissante. Voilà, ahurissante. Une espèce de capacité à manier la télécommande du DVD incroyable. Non, c'est quelqu'un qui peut voir dans des moments où il a un petit peu plus le temps, ou en tout cas où il choisit de prendre le temps, il peut voir 5-6 films par jour avec une mémoire extraordinaire. C'est un passionné de cinéma. Moi, je n'avais pas forcément les mêmes références. Il m'a montré énormément de choses. On a des enfants aussi. Donc, moi, tout ce qui était... film d'action américain, je ne connaissais pas tout ça. Donc, j'ai appris. Mais il m'a appris aussi beaucoup de ludisme. Je voyais plus de films... comment on dirait ? Enfin, de films d'art-essai. Justement, j'aimais le décalage, mais je trouve que c'est ce qu'il peut y avoir vraiment dans les films de Samuel. Cette espèce de rythme, c'est un rythme qui permet aussi à l'image de s'impressionner, comme la pellicule. D'ailleurs, il tourne en pellicule encore, Samuel, ce qui est extraordinaire. Donc non, il m'a montré plein de choses, je lui ai même montré des films italiens, d'ailleurs, qu'il ne connaissait pas, et lui m'en a montré d'autres. Je ne connaissais pas, moi, L'argent de la vieille, de Comencini. C'est extraordinaire, c'est insensé ce film, insensé. C'est d'une drôlerie et d'une provocation dingue, avec Bette Davis qui joue une vieille épouvantable.
Ce soir, c'est 20 millions qu'il faut lui piquer, hein?
Mais non, pas 20 millions. Moi, je me coupe la main si vous ne lui prenez pas au moins 100 millions.
Et qui te dit le contraire? Cette fois, ton père et moi, on s'est entraînés tout l'hiver. On fait une équipe presque imbattable.
Et pourquoi on est imbattable? Parce que votre mère et moi, on s'aime bien et on est bien d'accord. Quand on joue, il nous suffit d'un regard. C'est pour ça qu'on fait une bonne équipe. Et c'est pour ça qu'on va gagner.
Tu as raison, papa. Fais attention au petit, toi. Hein?
Antonia, mange une croquette, ça donnera des forces.
Non, ça va nous alourdir et puis après, on ne pourra pas jouer.
Elle a raison. Plus on restera léger, mieux on jouera. Et dépêche-toi, il faut partir. Et puis on jouera, plus on lui piquera de fric à la vieille. Cléopâtre, embrasse papa. Pourquoi t'as l'air si triste? Tout le monde est excité, on est tous pleins d'espoir parce que la vieille est là. Et toi, t'es pas contente? Hein?
Si.
Bravo, j'aime mieux ça.
Manger.
Ris de temps en temps, Cléopâtre. Vas-y, ma chérie.
Voilà, c'était Anna Mouglalis qui m'avait accordé un petit moment. Et après, on a parlé du film de Philippe Gandrieux, La vie nouvelle. Donc, tournage en Bulgarie extrêmement compliqué. Donc, je réserve ça pour une autre émission. Elle était très bavarde sur le sujet. C'était un grand souvenir pour elle et pas forcément positif. Voilà. Donc, chez Gino, ça sort aujourd'hui. Ce sera au Gaumont. Multiplex et au CGR aussi. Voilà, c'est un film de Ben Chetrit et donc je vous le conseille quand même, même si c'est un mélange de mélodrame, de comédie, un peu sur cette arrivée près de chez vous. Il voit un peu sur ces plates-bandes-là, c'est-à-dire qu'il y a une mise en abîme de comment on construit un film, parce que là il s'agit de construire un film autour de José Garcia pour prouver aux Italiens mafieux que c'est un grand mafieux. Alors effectivement, il ne l'est pas du tout, c'est plutôt un brave type, ce Gino. Et donc c'est là où il y a tout un exercice comique quand ils organisent ce film, parce qu'ils sont complètement fauchés, hein. Vraiment un film qui part pour être un nanar, voilà. Et après, il se confronte à la réalité avec un Sergi Lopez qu'on a écouté dans les extraits, qui lui joue un type qui a vraiment, qui domine les pizzerias de la ville. Voilà, c'est à toi pour la deuxième partie de ce dossier Kadic.
Oui, on va quitter la Belgique et José Garcia pour repartir en Amérique. Alors dans la foulée de Minority Report, et pour profiter de la vague Philip K. Dick que Steven Spielberg a relancée, deux films qui utilisent le thème de la précognition, de la vision de l'avenir, vont être produits. Paycheck de John Woo en 2003 et Next de Lee Tamahori en 2007, qui adapte à nouveau des nouvelles sans intérêt particulier que l'auteur écrivait pour faire bouillir la marmite. Alors ces deux films brillent par leur médiocrité. Le désintérêt des réalisateurs pour l'univers et l'esprit dickien ne serait pas aussi flagrant si les films étaient un peu plus inspirés. Mais non, les idées de l'écrivain sont passées à la moulinette hollywoodienne et deviennent de simples véhicules pour les stars Ben Affleck et Nicolas Cage. Le thème de la synchronicité temporelle, des réalités superposées dans le temps et les mystères de l'entropie qui fascinaient Dick sont ignorés pour mieux accumuler des scènes d'action roboratives et formatées. Paycheck et Next font leur marché dans le film de Steven Spielberg en lui empruntant un certain nombre de concepts visuels et de péripéties. Et à y bien réfléchir, en fait, ces deux films se construisent sur un unique ressort dramatique déjà développé dans une séquence de Minority Report. Dans cette scène, John Anderton et l'un des précogs fuient à travers un centre commercial et donc la précog utilise son don de voyance pour leur permettre de s'échapper. Dans Paycheck et dans Next, cette idée séduisante et spectaculaire qui fonctionne très bien de façon ponctuelle dans le film de Spielberg, eh bien cette idée est développée en long, en large et en travers jusqu'à l'indigestion. Donc voilà, ces deux-là, vous pouvez les laisser dans les bacs à soldes des cash converters et vous rabattre plutôt sur Planète Hurlante ou Impostor qui, malgré leurs défauts, sont bien plus recommandables. Alors il est temps maintenant de parler de l'adaptation la plus fidèle de l'œuvre de Philip K. Dick au cinéma.
Charles Freck, de plus en plus déprimé par ce qui arrivait autour de lui, décida finalement de se suicider. Dans les milieux qu'il fréquentait, mettre fin à ses jours ne posait pas de problème. On achetait une grande quantité de tranquillisants et on les avalait avec du vin bon marché. Ses préparatifs se concentrèrent sur les objets qu'il voulait que les archéologues du futur découvrent sur lui. Il lui fallut plusieurs jours pour décider, bien plus de temps qu'il avait pris pour décider de se tuer. On le retrouverait allongé sur son lit, avec un exemplaire de La Source Vive d'Ayrand et une lettre inachevée à Esso pour protester contre l'annulation de sa carte de carburant. De cette manière, il contesterait le système et il donnerait à sa mort une portée qui dépassait celle de son destin individuel. Au dernier moment, il changea d'avis sur un point capital et il décida d'avaler les pilules avec un grand cru millésimé au lieu d'un gros rouge qui tache. Il fit donc un ultime trajet jusqu'à un magasin de vins et spiritueux spécialisé dans les vins fins et il acheta une bouteille de Merlot Azalea Springs 2001 qui lui coûta presque $70. De retour chez lui, il déboucha le vin, le laissa s'aérer, en but quelques verres et essaya de penser à des choses profondes sans y parvenir. Ensuite, avec un verre de Merlot, il avala toutes les pilules d'un coup. Toutefois, il s'était fait avoir sur la marchandise. Au lieu de s'éteindre paisiblement, Charles Freck se mit à halluciner. L'instant d'après, une créature venue d'une dimension indéterminée se dressait près de son lit et le dévisageait d'un air réprobateur.
Vous allez me lire mes péchés. Ça va prendre au moins 100 000 heures.
Vos péchés vous seront lus sans interruption. On se relaiera durant l'éternité. La liste ne s'achèvera jamais. Les péchés de Freck.
Charles Freck aurait bien aimé revivre autrement la dernière demi-heure de sa vie.
Péché à l'âge de 6 ans en cours élémentaire, vol caractérisé d'un coup ongle chromé. À 3h08 de l'après-midi, vous avez sciemment et avec préméditation frappé votre petite sœur Evelyne. Décembre, vol... Des cadeaux de Noël, un million de mensonges, destruction...
Un millier d'années plus tard, les créatures en étaient à sa classe de sixième, l'année où il avait découvert la masturbation.
Le 14 novembre, percodan, vicodine, cocaïne...
Charles Freck pensa, au moins j'ai bu un bon vin.
Alors sorti en 2006, entre Paycheck et Next, A Scanner Darkly de Richard Linklater a été une véritable bouffée d'oxygène pour tous les fans de Philip K. Dick. Donc, troisième adaptation d'un roman après Blade Runner et Confession d'un Barjo, A Scanner Darkly se base sur l'un des livres les plus acclamés de l'auteur, Substance Mort. Avec ce roman, publié en 1977, Dick réussit à mélanger parfaitement autobiographie et science-fiction et plonge ses lecteurs dans la plus sombre période de sa vie. le début des années 70, quand, après s'être fait quitter par sa quatrième femme, il ouvrit sa maison à tous les drogués des environs et s'enferma petit à petit dans une dépression chronique. Alors, Substance Mort raconte l'histoire de Bob Harktor, un policier infiltré chargé de démanteler un trafic de drogue. Obligé de cacher son identité à ses collègues et son véritable travail aux drogués qu'il fréquente, Harktor se retrouve rapidement dans une situation improbable où on le charge de se surveiller lui-même. Donc cette mission et son addiction progressive à la substance M le font basculer petit à petit dans la schizophrénie.
Vous manifestez ce que nous considérons plus comme des phénomènes de rivalité qu'une altération proprement dite.
Ah oui ?
Une rivalité entre les hémisphères gauche et droit de votre cerveau. On dirait que vous avez deux signaux qui interfèrent mutuellement parce qu'ils portent des informations contradictoires.
Et c'est comme si vous aviez deux jauges de carburant dans votre voiture. Elles analysent la même quantité de carburant, mais l'une dit que le réservoir est plein et l'autre indique qu'il est vide. Les deux ne peuvent pas avoir raison. Et vous, le conducteur, vous n'avez qu'une relation indirecte avec le réservoir, par les jauges.
Alors, ça veut dire quoi tout ça ?
Eh bien, vous le savez sûrement déjà. Vous l'avez expérimenté sans savoir pourquoi ni ce que c'était.
Les deux hémisphères de mon cerveau sont en compétition.
Mais... Oui.
Mais pourquoi ?
La substance M. Elle cause souvent ce trouble fonctionnel, et c'est ce que les tests nous confirment. Des dommages ont été occasionnés à l'hémisphère gauche, qui normalement prédomine, et l'hémisphère droit fait ce qu'il peut pour compenser. Nous appelons cela un montage entrecroisé, lié au phénomène de cerveau dédoublé. Nous pourrions pratiquer une hémisphérectomie droite, mais dans votre cas...
Est-ce que ça disparaîtra un jour ?
Probablement, c'est une altération fonctionnelle.
Il se peut qu'il y ait une lésion organique importante. Cela peut être permanent. L'avenir nous le dira, et seulement une fois que vous aurez arrêté la substance M pendant un long moment.
Je ne prendrai plus jamais de substance M, plus jamais de toute ma vie.
Pour adapter ce roman culte, Richard Linklater décide d'avoir recours à une technique qu'il a déjà utilisée en 2001 pour son film Waking Life, la rotoscopie numérique. Alors, il s'agit d'une vieille technique du cinéma d'animation remise au goût du jour grâce à des outils informatiques. La production du film se déroule en deux temps, la prise de vue proprement dite, comme dans un tournage classique, et l'animation. Donc chaque image du film passe entre les mains d'une équipe d'animateurs qui repeint par-dessus. Le graphisme du film est donc unique entre réalisme et animation, et la performance des comédiens est authentique. Donc ce choix esthétique, c'est la grande réussite de A Scanner Darkly. La rotoscopie permet d'illustrer visuellement l'univers instable développé par Dick dans ses romans. Pour la première fois, on retrouve sur l'écran cette non-fiabilité du milieu ambiant, cette réalité incertaine et cauchemardesque qui est la marque de fabrique de l'auteur. Donc, Scanner Darkly, c'est un film fort, poignant, techniquement impressionnant aussi quand on sait qu'il a fallu plus de 300 heures de travail pour animer chaque minute de film. Le casting, emporté par Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Woody Harrelson et Winona Ryder, s'approprie les personnages de Dick et nous entraîne dans un pur délire paranoïaque, drôle et terrible à la fois, qui trotte dans la tête longtemps après la fin du film.
Je suis censé agir comme si eux n'étaient pas là, à supposer que eux existent réellement. Il se peut que ce soit seulement mon imagination. Quelle que soit la nature de ce qui m'observe, c'est pas humain. À la différence de Donna aux yeux noirs, ça ne bat jamais des paupières. Que peut voir un scanner ? Ce qui se passe dans la tête ? Ce qui se passe dans le cœur ? Est-ce qu'il voit à l'intérieur de moi ? À l'intérieur de nous ? Clairement ou obscurément ? J'espère qu'il voit clairement parce que moi, j'arrive plus à voir en moi-même. Je vois que des ténèbres. J'espère pour tout le monde que le scanner fait mieux. Parce que si le scanner ne voit qu'obscurément comme moi, alors je suis maudit. Doublement maudit. Et comme ça, on finira tous morts. En sachant très peu de choses, et même ce très peu de choses, on l'aura compris de travers.
Voilà donc un extrait de Scanner Darkly de Richard Linklater. On retrouve bien ce côté un peu dépressif de l'auteur, surtout dans cette période-là de sa vie. Donc c'est à mon avis l'adaptation la plus fidèle de l'univers de Dick au cinéma, déjà grâce à cette technique d'animation qui donne cette image flottante, imprécise.
Et avec l'infiltré effectivement dont le visage change de couleur, de couleur et puis d'expression à chaque moment. Ouais.
Voilà, il n'y a pas vraiment de plan fixe, même sur les plans où la caméra est posée, le décor continue à changer de façon presque imperceptible. Et puis il y a ce costume brouillé que le policier porte donc pour cacher son identité, qui est une sorte de patchwork de milliers d'images d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont mélangés, qui apparaissent de façon aléatoire sur ce costume. Donc ça, c'est une très belle idée dans le roman déjà, et Linklater a réussi à lui donner vie de façon vraiment réussie, à mon avis. Alors, quelques mots pour terminer sur L'Agence de George Nolfi, donc sorti mercredi dernier en salle. Nous sommes à nouveau dans l'adaptation d'un texte mineur gonflé par les scénaristes pour convenir à une durée de long métrage. Alors, l'ensemble se laisse agréablement regarder, mais n'a plus grand-chose à voir avec Dick, un peu le syndrome paycheck en quelque sorte, même si le film de George Nolfi est bien plus agréable et réussi que ne l'est celui de John Woo. On retrouve des éléments de science-fiction déjà rencontrés dans plusieurs autres films récents, comme la saga Matrix ou le Dark City d'Alex Proyas. Et au final, c'est plus la romance entre Matt Damon et Emily Blunt qui est mise en avant que l'univers de science-fiction et la thématique de la réalité contrefaite que l'on trouvait dans la nouvelle. Voilà, donc pour ce petit survol des adaptations de Philip K. Dick au cinéma, si vous avez été attentif pendant ces deux dernières émissions, vous aurez remarqué que je ne vous ai parlé que de 10 films, et non pas de 11, alors que L'Agence, c'est la 11e adaptation. Et bien ce 11e film mystère, c'est Radio Free Albemuth, un film indépendant réalisé par John Alan Simon, qui n'est toujours pas distribué ni aux États-Unis ni ailleurs. Et en attendant qu'il sorte en salle, ou plus probablement en vidéo, vous pouvez déjà en voir la bande-annonce sur le site officiel du film www.radiofreealbemuth.com. Donc voilà, ça a l'air assez fidèle à l'esprit, même si voilà, on est très loin des gros budgets, des blockbusters qui ont été tirés de certaines nouvelles de Dick. Ça ressemble plus à du Richard Kelly, donc Donnie Darko, The Box et Southland Tales. Donc sans doute très, très fidèle. Donc voilà, pour ce petit dossier sur Philip K. Dick, un auteur que je vous recommande bien sûr de lire et relire.
Voilà, donc on en a pour un moment, hein, parce qu'il a beaucoup écrit, puis en plus il y a eu 10 adaptations au moins visibles maintenant.
Voilà, ouais. Et sans doute qu'il y aura de très nombreuses adaptations, en espérant qu'il y ait un jour...
Quand les ayants droit sont morts.
Non, mais les ayants droit font fructifier les écrits, Je ne sais plus quelle nouvelle avait été achetée. C'est Minority Report qui avait été acheté $130 à Philip K. Dick l'époque, et qui a rapporté $130 millions au producteur et à Steven Spielberg.
Ah. Merci beaucoup, Martin. On passe très vite à l'actu avec jeudi 31 mars à 19h50 au Diagonale, Cellule 211 de Daniel Monzon. C'est un film espagnol déjà sorti en décembre. C'est une immersion dans la prison. C'est une séance suivie de débats animés par deux génépistes et Malika Page, ancienne génépiste et psychologue ayant travaillé en prison. Les génépistes sont des gens qui font partie de l'association Génépi et qui vont justement dans les prisons.
Et non pas qui boivent du Génépi.
Du Génépi, non, ça n'a aucun rapport. Samedi 2 avril à 20h au cinéma Le Capitole à Uzès, c'est pas tout près, et Boxing Gym de Frédéric Wiesmann. Projection en sa présence, donc ça c'était très important. Donc la présentation de son parcours en sa présence sera effectuée par plusieurs professionnels travaillant dans la région Languedoc-Roussillon qui expliqueront comment et pourquoi l'œuvre du cinéaste a compté pour chacun d'entre eux. C'est assez exceptionnel en fait, hein, la présence de Frédéric Wiesmann, donc grand documentariste américain. Le mercredi 6 avril, c'est à l'Utopia à 19h30 Le Temps des Amoureuses de Henri-François Humbert, suivi d'à 22h Mes Petites Amoureuses, cette fois-ci c'est le film de Jean Eustache. C'est une double séance suivie d'une rencontre avec le cinéaste, donc c'est autour de Mes Petites Amoureuses. Tout d'abord, Mes Petites Amoureuses, film de Jean Eustache, et puis 20 ans après, Henri-François Humbert qui revient un peu sur l'émotion du tournage avec l'acteur qui était jeune à l'époque. Et puis passe toujours à l'Utopia, alors bien les films qu'on a déjà chroniqués ici, Black Swan, Le Discours d'un Roi, Le Nom des Gens, Les Femmes du Sixième Étage et True Grit, et puis aussi Angel et Tony, La Permission de Minuit, La Petite Chambre, Le Président, Nous, Princesse de Clèves et Qui a envie d'être aimée. Voilà, ainsi s'achève l'émission Cinérama.
N'oubliez pas notre rendez-vous hebdomadaire sur la musique de film, donc avec 24 notes secondes qui arrive juste après Cinérama.
Dont le thème est
The Last Waltz.
Voilà, on ne sait pas ce que ça concerne. Mais j'imagine que c'est toutes les musiques de valse au cinéma, non?
Quelque peut-être, ou ça. Alors c'est consacré au film The Last Waltz. Mais bon, vous allez avoir l'explication dans quelques minutes.
Avec Yves Desrichard. Voilà. À la fin de ce générique, alors il se trouve que je pensais que La fille du puisatier de Daniel Auteuil sortait aujourd'hui, ce qui est complètement faux puisque ça sort le 20 avril. Donc j'avais préparé un extrait où on retrouvait José Garcia, dont le film sort, enfin le film chez Gino sort aujourd'hui. Une scène où il y avait José Garcia et Daniel Auteuil. C'était dans le film Après vous de Salvadori. Donc, de toute façon, Auteuil, on en reparlera. À l'approche du 20 avril, mais donc ce sera bien un extrait de Après vous, donc film de Salvadori. Et puis on remercie Bruno qui était à la technique aujourd'hui. La semaine prochaine, eh bien, on se retrouvera pour un spécial Rencontre des cours, un festival de courts-métrages qui se déroule le week-end de la semaine prochaine. Et puis Divergence étant partenaire, et puis sachant qu'il y aura des invités plutôt prestigieux du genre Moki, Elina Lovenson et puis Patrick Bouchité, eh bien ça nous intéresse énormément. Voilà, merci et bon cinéma.
Au revoir.
Je vais pas bien. Je crois que je vais aller un peu dans ta voiture.
Mais tu peux pas, on est en plein service.
Je m'en fous.
Bah, me fais pas ça.
Bah putain, puisque je te dis que je vais pas bien, arrête de penser qu'à toi.
Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je pense qu'à moi. Je pense qu'à moi. Putain, mais je m'occupe de toi du matin au soir. Je fais tout, n'importe quoi pour que tu t'en sortes.
Et alors ça t'empêche pas de penser qu'à toi?
C'est pas possible, je vais le tuer.
Cinérama.
On va savoir ce que tu veux.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. Alors, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.